Quatrième jour de visite de Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer s'est rendu aujourd'hui dans le Nord. Il a notamment rencontré les stagiaires du RSMA à Koumac. Françoise Souvet, nouvelle présidente de l'Agence calédonienne de l'énergie. Elle succède à Christopher Gigès à la tête de la structure qui est dédiée à la transition énergétique sur le territoire. Le harcèlement dans le milieu scolaire parmi les priorités du vice-rectorat pour l'année scolaire qui vient de débuter. Le harcèlement au cœur de notre magazine Citoyen ce midi sur Radio Rythme Bleu, extrait dans ce journal. 86%, c'est le taux de moustiques porteurs de Wolbachia dans le Grand Nouméa. Dans le Grand Nouméa, le World Mosquito Programme a dressé ce matin le bilan des 7 années de lutte contre la dengue. Et puis le sport et de l'apnée avec le coup d'envoi ce soir du challenge d'été à la piscine du Wentoro. Challenge qualificatif pour les prochains championnats de France. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. C'est demain que doivent débuter les discussions entre tous les groupes politiques du Congrès autour du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et du conseiller du Premier ministre, Éric Thiers. Hier, à l'issue d'une plénière de restitution et de méthode, et après de nouvelles réunions bilatérales, le ministre a fixé les thèmes, le calendrier et les principes de discussion consacrés à la recherche d'un accord sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, Elisabeth Noir.
Il s'agit de discuter, dialoguer et le ministre l'espère de négocier. Emmanuel Valls a proposé 3 thèmes de discussion. Le premier, c'est le lien avec la France, un thème qui englobe les questions d'autodétermination, de décolonisation, de citoyenneté, de corps électoral et de compétences régaliennes. Le deuxième thème, c'est la gouvernance, c'est-à-dire les institutions, gouvernement, congrès, provinces, communes et leurs compétences ainsi que les réformes à envisager. Troisième thème enfin, le nouveau contrat social, c'est-à-dire tout ce qui fait société avec un accent particulier mis sur la jeunesse. Le ministre a aussi posé des principes qualifiés d'essentiels dans la recherche de cet accord. Une souveraineté avec la France, puisqu'il y a eu 3 référendums qui ont abouti à une réponse négative quant à l'accession à la pleine souveraineté. La sécurité, avec la protection de tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie. Le respect de la démocratie et l'état de droit, mais aussi une Nouvelle-Calédonie unie et indivisible. Pour ces discussions, Manuel Valls a prévu 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi. Les réunions devraient se tenir au commissariat dès demain matin à partir de 8h30. Autour de la table, il devrait y avoir l'ensemble des délégations politiques, Loyalistes et Rassemblement, Calédonie Ensemble, Éveil Océanien, UNI et UC-FLNKS, même si l'UC n'a pas encore confirmé officiellement sa participation, alors qu'elle devait communiquer aujourd'hui sur le sujet. Aux dernières nouvelles, le bureau politique du FLNKS serait toujours en réunion à l'heure actuelle.
Et aujourd'hui, le ministre des Outre-mer était en province nord au 4e jour de sa visite sur le territoire. Une journée placée sous le signe de la jeunesse et de la formation qui a débuté par une visite au lycée Michel Rocard de Pointe-Boute. Déplacement suivi pour Radio Rythme Bleu par Mickaël Juneski.
Et c'était donc une matinée pas comme les autres pour cet établissement de la province nord. Une visite auprès de la jeunesse, mais qui revêtait tout de même un caractère politique aujourd'hui pour le ministre des Outre-mer. Dans cette structure qui a fait ses preuves pour le Nord, pour toutes les formations liées à l'agriculture. Après avoir découvert la fresque de la poignée de main à l'entrée du lycée, Manuel Valls s'est adressé aux élèves lors d'un accueil chaleureux.
J'ai commencé à travailler au cabinet du Premier ministre, de Michel Rocard, et donc j'ai dû suivre et assister aux accords qui ont permis à la Nouvelle-Calédonie à l'époque de retrouver le chemin de la paix, même si la Nouvelle-Calédonie passe par des moments difficiles. Et je suis venu ici pour soutenir économiquement le territoire, pour faire en sorte que les élus, c'est leur responsabilité, trouvent le chemin du dialogue et qu'on construise l'avenir. Et cet avenir, il est d'abord pour vous, la jeunesse. Et cela passe évidemment par la formation l'éducation. Vous serez demain ceux qui porteront le destin de ce pays. Ce territoire est magnifique, il est lié à la France, mais c'est aussi un mélange de cultures incroyables. Il y a une histoire tourmentée, difficile et belle. Il faut que maintenant nous soyons tous capables, pour vous d'abord, de retrouver le chemin du dialogue et de construire cet avenir que vous méritez. Et vive le vivre ensemble, et vive les couleurs différentes, et vive la diversité.
Des élèves qui ont apprécié cette venue.
Ben, c'est étonnant, ça fait plaisir aussi de le voir. Ben, ça fait du bien d'entendre ce qu'il a dit.
Voilà, on est fiers qu'il soit là pour apporter de l'aide dans notre lycée, dans la Nouvelle-Calédonie.
Très important parce que c'était un des meilleurs copains à Michel Rocard, le créateur du lycée.
Vous, à côté, vous avez donné le bouquet, c'est ça, tout à l'heure?
Oui, on a donné le bouquet tout à l'heure. C'était le geste d'accueil. C'est une grande opportunité parce qu'on ne voit pas souvent des gens qui sont replacés comme ça. Souvent à la télé, mais c'est rare face à face. Quoi. C'est bien de toujours ne pas oublier un peu ce qui s'est passé avant, puis de toujours bien garder l'équilibre entre les deux frontières.
Et pour le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, lui-même originaire du Nord, ce déplacement de Manuel Valls avait un sens fort. Alcide Ponga.
C'est important ce titre-là, que c'est un outil de rééquilibrage pour les jeunes de l'intérieur. Comme il l'a dit tout à l'heure aux élèves, il appartient à lui-même et à l'ensemble des forces politiques de retrouver le chemin que les anciens ont tracé à l'époque pour avoir une sortie apaisée de l'accord de Nouméa, parce que la situation est économique l'exige, la situation de la Nouvelle-Calédonie l'exige. Il l'a dit ici au lycée, la sortie de l'accord de Nouméa apaisé, c'est aussi et surtout pour permettre un avenir apaisé à tous les jeunes.
Également présents, la présidente du Congrès, les maires de Koné et de Pointe-Boute, les représentants de la Chambre d'agriculture et de la pêche, ainsi que la première vice-présidente de la province Nord, Nadège Fèvre.
Moi, je suis ici en tant que première vice-présidente, certes, mais surtout en tant que présidente du conseil d'administration de Rocard, que j'effectue depuis déjà au moins 6-7 ans. Ce lycée, c'est 360 gamins. Il y a plus de 200 personnels, je dirais, sur Pointe-Boute. Une commune de 2800 habitants, c'est un lieu de vie de plus de 1200 personnes. C'était ce bain, cette immersion avec toute cette jeunesse. Ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est un enjeu essentiel. L'éducation, la formation. Donc, quand il a décidé de choisir cette séquence-là pendant son court séjour, nous, on a été ravis. On a essayé de mettre les petits plats dans les grands pour l'accueillir dignement. On est très honorés de sa visite à Pointe-Boute.
Le ministre qui a donc pris le temps de découvrir l'établissement, de visiter différents ateliers et d'aller à la rencontre des élèves, du poste de soudure jusqu'à la pesée du bétail.
Je suis très heureux pour des raisons qu'on peut parfaitement comprendre. J'ai été jeune collaborateur de Michel Rocard. C'est pas seulement un symbole, bien sûr, et ce rappel, parce que là, c'est le passé. Le passé, évidemment, est important, mais ce qui est essentiel, c'est l'avenir. Et dans ce lycée d'enseignement général et agricole, on forme la jeunesse calédonienne et on prépare donc l'avenir. C'est ça qui paraît essentiel. Et au cours de ces journées, il y a aussi un message d'optimisme que je veux faire passer. La formation, la jeunesse. Au fond, la grande leçon de ce qui s'est passé au mois de mai dernier, au-delà de la politique, c'est qu'il y a aussi une partie de la jeunesse qui ne va pas bien. Et donc, on doit se préoccuper avant tout d'elle. Et je pense que Michel Rocard, qui a tellement compté pour le destin de ce territoire, serait heureux de voir que l'un de ses successeurs, qui était Premier ministre et qui est aujourd'hui ministre des Outre-mer, continue dans cette même lignée, la construction de l'avenir.
En quelque sorte, une coupure sur le thème de la jeunesse et de l'agriculture dans un séjour à fort enjeu politique. Le ministre des Outre-mer qui aura donc passé près de 2 heures au sein du lycée agricole Michel Rocard de Pointe-Boute.
Et en raison des conditions météorologiques, Manuel Valls a dû annuler la visite qui était prévue sur la mine de Copéto. Il a directement poursuivi sa matinée au RSMA de Koumaac. Encore une fois, il a échangé avec les stagiaires en formation dans cette structure et il a passé en revue les installations du service militaire adapté et de cette antenne de Koumaac. Il a également remis des médailles à Ismaïla et Louisa, toutes deux honorées de recevoir une distinction des mains du ministre.
La médaille du brevet, c'est pour les plus méritants, ceux qui ont fait au moins 2 ans de service, je crois, qui ont été exemplaires. Quand je suis rentrée, j'étais en tant que stagiaire en formation, mobilisation et accompagnement vers l'emploi. Et après, je suis rentrée en tant que secrétaire au bureau du groupe d'échelon. Ben, ça aide pour après chercher du travail, pour la discipline, tout ça surtout.
Ça va faire 4 ans que je suis au SMA, 4 ans et 10 mois. Je termine bientôt en septembre. Recevoir le brevet du SMA, c'est échelon A. C'est pour les volontaires techniciens méritants. Et c'est un honneur que c'est le ministre qui me l'a remis.
Il vous a dit quelques mots également au passage.
Il m'a félicité, il m'a dit c'est mérité.
C'est pas tous les jours.
Non, c'est pas tous les jours qu'on voit le ministre.
Le RSMA est un dispositif qui a fait ses preuves jusqu'à inspirer la métropole, dispositif de formation et d'insertion professionnelle dans tous les territoires ultramarins sous l'égide du ministère des Outre-mer. On écoute de nouveau Manuel Valls.
Quand je me déplace dans les territoires ultramarins, je ne rate jamais la possibilité d'aller à la rencontre du RSMA. Ici, en Nouvelle-Calédonie, il joue un rôle incroyable d'intégration de la jeunesse de ce territoire, quelles que soient les origines, quelles que soient les provinces ou les communes. J'ai vu des garçons et des filles des îles de Loyauté, de la côte Est, de la province Sud, d'ici même d'ailleurs, de cette province Nord, plein d'enthousiasme, qui ont passé leur permis de conduire, qui travaillent les champs, qui apprennent des métiers, qui veulent s'engager d'ailleurs dans la gendarmerie, dans les armées. Donc c'est un facteur d'optimisme, d'intégration. Après les événements du mois de mai dernier, le RSMA a résisté à tout ce qui pouvait conduire à des fractures. Donc c'est un très beau modèle et qui montre le lien très particulier entre la Nouvelle-Calédonie et la France et entre la jeunesse et les armées. Et ça, c'est pour moi toujours un grand motif de satisfaction. Au fond, vous l'avez vu, cette matinée était dédiée à la jeunesse, à l'avenir, à la formation du lycée Michel Rocard, formation générale et agricole, ici à travers le rôle de nos armées et de l'encadrement qu'elles représentent pour cette jeunesse. Et je veux encore dire qu'il n'y aura pas d'accord politique sans une économie qui se redresse et sans un projet qui est celui de vivre ensemble, sans un projet pour l'avenir, pour la jeunesse, pour la Nouvelle-Calédonie.
Les responsables du régiment du service militaire adapté en Nouvelle-Calédonie étaient également fiers de recevoir le ministre des Outre-mer dans l'une de leurs antennes, le lieutenant-colonel Faldoni Revillon et le commandant du RSMA.
C'est d'autant plus un plaisir que le ministre Valls est mon ministre de tutelle, puisque le SMA est un dispositif qui est géré par le ministère des Outre-mer, auquel concourent également les forces armées, puisqu'ils mettent à disposition des cadres au profit du régiment pour permettre l'insertion sociale et professionnelle des jeunes qui nous rejoignent chaque année. Sa visite nous a permis de lui montrer ce qu'on faisait concrètement sur le terrain au profit des jeunes, dans le cadre de filières qu'on lui a présentées ce matin, avec par exemple des métiers de la terre, nos élevages porcins, nos élevages aviaires. Il a pu voir notre champ dans lequel on fait de la culture, il a pu voir également nos capacités de réaction au profit de la population en cas de catastrophe naturelle et en particulier nos filières de sapeurs-pompiers qui concourent au développement du territoire.
Des propos recueillis à Koumac par Mickaël Juneski, le ministre des Outre-mer, a achevé son séjour en province Nord par une escale à la tribu de Tiananit pour un hommage à Jean-Marie Tjibaou. De retour à Nouméa dans l'après-midi, il s'est rendu au cimetière du 4e kilomètre pour un hommage cette fois-ci à Jacques Lafleur, le ministre des Outre-mer qui doit terminer sa journée par un dîner au GIEP avec de jeunes Calédoniens.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Voici notre question du jour. Est-ce que la méthode présentée par Manuel Valls vous semble efficace pour aboutir à un accord? Si elle vous semble efficace, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 68% des auditeurs d'Erarbé qui se sont exprimés par SMS pensent que les partisans de la France ont eu raison d'interpeller, comme ils l'ont fait, le ministre des Outre-mer au premier jour de sa visite en Nouvelle-Calédonie. Ils sont 32% à penser et qu'ils n'ont pas eu raison. L'Agence calédonienne de l'énergie change de présidence. C'est Françoise Souvé, élue de la province Sud et conseillère au Congrès, qui est désormais à la tête de la structure qui est dédiée à la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie. Elle succède à Christopher Gigès et, comme elle l'explique, s'inscrit dans les mêmes ambitions de poursuite du STANC, le schéma de la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie.
D'abord, c'est un mandat qui sera certainement court. Il n'en demeure pas moins que c'est un beau challenge, effectivement. Et je remercie le conseil d'administration, tous les administrateurs de m'avoir réélu. Et je remercie aussi Christopher Gigès de me faire confiance. Et en fait, il y a déjà un schéma de transition pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie. Je m'inscris complètement dans les ambitions du STANC. S'il y a une plus-value à apporter, je pense que c'est vraiment de renforcer la coordination des actions qui sont menées par toutes les collectivités en termes de transition énergétique et plus largement d'adaptation au changement climatique. Ensuite, en concertation avec le membre du gouvernement en charge du secteur, donc Christopher Gigès, j'aimerais vraiment être force de proposition pour faire évoluer le cadre législatif, celui réglementaire et fiscal, pour que la transition énergétique, elle trouve complètement sa place dans nos politiques en Nouvelle-Calédonie.
Françoise Souvé, joint au téléphone par Charlotte Coulson. Samuel Népéou, le membre du gouvernement, a pour sa part été élu vice-président de l'Agence calédonienne de l'énergie. Un rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu, arrivé en septembre 2022 sur le territoire. Le procureur général près de la cour d'appel, Bruno Dalle, arrive au terme de sa mission. Il quitte le territoire en fin de semaine pour rejoindre un poste à Monaco. Que retient-il de son séjour en Calédonie? Comment a-t-il vécu la période des émeutes et l'intense activité judiciaire qui en a découlé? Bruno Dalle sera demain notre invité du matin à 7h30. Il est pratiquement 18h sur Radio Rythme Bleu. On marque une pause dans ce journal.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange? Les programmes à faible température comme ECO permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces EcoConso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
La semaine dernière, j'ai encore passé 3 jours à courir après mes factures impayées.
Attends, mais avec ce Blue, c'est automatique. Tu cliques sur relancer tes factures et paf, toutes les relances partent direct par mail à tes clients. Et si tu veux que certaines ne soient pas envoyées, tu les enlèves facilement.
Sérieux ?
Et c'est aussi simple pour gérer tes stocks, créer des devis, gérer ta caisse. Je te parle même pas des exports comptables.
Mais non ! Faut appeler qui pour une démo ?
Va sur soblue.nc, S-O-B-L-O-O. Et fais gaffe, tu pourras plus t'en passer.
Soblue.nc ? Ok, j'arrive !
Soblue, la solution locale qui révolutionne votre gestion commerciale.
RRB Recherche, un agent commercial patenté. Contactez-nous au 25 46 46 ou par mail à rrbpub@lagoon.nc. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'info soir, Lionel Sabot.
Le harcèlement dans le monde scolaire, c'était le thème de notre magazine Citoyen ce midi sur Radio Rythme Bleu. Le harcèlement est l'une des problématiques dont on parle de plus en plus et qui est l'une des grandes priorités pour cette année 2025. Une lutte contre le harcèlement qui passe par des actions détaillées dans un programme global de prévention du harcèlement. Écoutez le vice-recteur Didier Vindatich qui était l'un de nos invités ce midi.
En fait, le modèle qu'on met en œuvre, c'est le modèle qui s'appelle le modèle phare, qui est en application en métropole et dont nous avons ici toutes les pièces. Mmh. Le concours Acrovie, les protocoles de lutte contre le harcèlement, etc. Mais il nous manquait une pièce, c'était les équipes d'ambassadeurs. Donc nous sommes là dans un établissement qui a pris de l'avance sur tous les autres et qui a constitué cette équipe d'ambassadeurs, équipe sur laquelle nous allons compter cette année pour intensifier nos efforts dans la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, dans le collège en question. Et j'espère que, évidemment, tous les collèges vont s'inscrire dans ce sillage. Pour dire les choses clairement, donc, l'objectif pour 2025, c'est qu'à la fin de l'année, tous les établissements publics, collèges et lycées soient dotés d'un protocole de lutte contre le harcèlement. Comme nous avions pris un peu de retard en 2024, nous allons, avec Gérard Giacomino, combler ce retard en 2025. Mmh. Et une fois qu'on y sera, eh bien, nous passerons à la phase 2, c'est celle de la constitution des équipes d'ambassadeurs.
Et parmi les différents niveaux de compétences, si l'on peut dire ainsi, il y a, vous l'avez entendu, la mise en place dans les établissements scolaires de jeunes référents, que l'on appelle ambassadeurs. Le collège Louise Michel de Païta est un collège pionnier dans la mise en place de ces ambassadeurs. Ce midi, Sakura et Thibault, élèves de 3e, étaient sur notre plateau. Ils nous ont expliqué pourquoi, et pour des raisons différentes, ils avaient décidé de s'engager.
J'ai choisi de devenir ambassadeur parce que...
Parce que tu as une histoire avec le harcèlement.
Oui, voilà. Il y a longtemps, j'ai été harcelée et en fait, j'avais pas compris que c'était ça. Et du coup, une autre fois encore en 5e, j'ai vu un camarade se faire harceler. Et plein de fois, j'avais vu ça de loin et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et quand j'ai vu en fait cette proposition pour devenir ambassadeur, ça m'a donné envie de devenir ambassadeur, tout simplement parce que j'aime aider et parce que j'aimerais pas qu'il y en ait qui se retrouvent comme moi isolés pendant toute la primaire. Quoi.
Alors moi, personnellement, je n'ai jamais subi plutôt une
situation de harcèlement. Ouais.
Ouais. Mmh. Mais des amis autour de moi, et c'est parti très loin pour elles. Elles pleuraient tous les soirs, elles n'étaient pas bien en cours. Et je me suis dit qu'il fallait que j'agisse déjà pour elles, parce qu'elles comptaient beaucoup pour moi et aussi pour tous les autres.
Sakura et Thibault, qui étaient accompagnés ce midi par Marion Bénard, infirmière du collège Louise Michel de Païta, qui fait partie de l'équipe éducative qui forme ces jeunes collégiens, était également avec nous ce midi Gérald Giacomino, conseiller sécurité auprès du vice-recteur citoyen. Une émission qui est disponible en réécoute sur notre site internet rrb.nc. 86%, c'est le taux de moustiques porteurs de Wolbachia dans le Grand Nouméa. Le World Mosquito Programme a dressé le bilan de cette année de lutte contre la dengue, Charlotte Coulson.
24 millions de moustiques porteurs de cette bactérie naturelle qui bloque la transmission des arboviroses ont été lâchés dans les 4 communes de l'agglomération et les résultats sont extrêmement satisfaisants. Nadège Rossi est la directrice du programme.
C'est un succès. Ça montre à quel point la Nouvelle-Calédonie dispose de compétences qui permettent de mettre en place un tel
programme. C'est une réussite aujourd'hui, on le voit, plus d'épidémie de dengue. On a une population qui nous a soutenus de A à Z pendant 7 ans. Donc vraiment, on ne peut que se féliciter du résultat aujourd'hui. 86%, c'est suffisant, en tout cas pour casser les chaînes de transmission de la dengue. Ce pourcentage va bien sûr continuer à évoluer et tendre vers 100%. On est à peu près certain que des épidémies, nous n'en aurons plus, en tout cas pas de la même intensité que ce qu'on a pu avoir auparavant. Malgré tout, on reste vigilant. Il y a des zones sur le territoire qui ne sont pas couvertes par cette méthode et donc où on pourrait avoir des petits foyers actifs de dengue. Donc il faut rester vigilant.
Et même si les résultats sont très prometteurs, la vigilance reste de mise, notamment pour éviter l'importation de cas.
C'est assez facile finalement d'éviter le risque, simplement en se protégeant à l'aide de produits répulsifs. 15 jours après un retour de voyage dans un pays où la dengue circule, on demande un petit effort à la population, mais je crois que c'est un petit effort qui peut ne faire qu'améliorer cette sécurité par rapport aux épidémies de dengue. Bien sûr, on continue à détruire les gîtes larvaires, sans aucun doute, pour éviter la nuisance évidemment.
Et ce succès est une satisfaction pour les institutions et notamment le gouvernement qui était partenaire de l'opération. Claude Gambet, membre du gouvernement en charge de la santé.
Une grande satisfaction. Nous constatons aujourd'hui le succès de cette opération. 8 milliards d'économies depuis 2020, des morts qui ont été évitées, des séquelles qui ont été évitées. Donc c'est une grande victoire, on ne le dit pas assez. Mais c'est l'exemple même d'une politique publique de prévention qui réussit. Et c'est la preuve que la prévention nécessite une application multipartenariale. Ici, c'est le monde de la recherche, le monde de la santé, la société civile, les associations, les entreprises. Nous arrivons à atteindre un objectif. C'est un exemple pour certains territoires du Pacifique. Je pense à pays de la région où l'AEDES aegypti prolifère. Je pense au Vanuatu, où je pense à tous ceux qui sont alentour. Mais encore une fois, le World Mosquito Program est un programme mondial. Et beaucoup de pays du Pacifique s'y sont lancés.
Et le World Mosquito Programme est donc terminé pour son volet déploiement. Désormais, chaque année, les mairies et les bénévoles vont se mobiliser pour suivre l'évolution du nombre de moustiques porteurs de la bactérie.
À Paris, le salon de l'agriculture se poursuit et le village du Pacifique ne désemplit pas parmi les visiteurs ces dernières heures. Le Premier ministre François Bayrou et la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire Jean-François Bonin.
Ils se sont arrêtés au village du Pacifique où les attendaient les présidents des trois chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna. Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre de Nouvelle-Calédonie, a pris la parole au nom des trois chambres consulaires et parmi les sujets évoqués, la création d'une fédération des trois chambres d'agriculture du Pacifique, le soutien de l'État à l'agriculture et le projet de second lycée agricole annoncé par le président Macron en 2024 qui devrait être construit à la fois. L'occasion aussi de détailler la capacité de production calédonienne avec un marché intérieur assez vite saturé mais avec de grosses possibilités en volume. L'agriculture et la pêche calédonienne ont vocation à se tourner vers l'export. Mais pour pénétrer ces nouveaux marchés, la qualité des produits calédoniens ne suffira pas. Il faudra obtenir aussi des autorisations de l'Europe et du ministère de l'Agriculture. C'est ce qu'explique Lionel Brinon, le président de l'OSEF et de la Commission Agriculture et Pêche du Congrès.
En Nouvelle-Calédonie, en fait, le marché intérieur est quand même petit et on a des producteurs qui savent produire, mais que nous sommes obligés de restreindre dans leur capacité de production par rapport au marché intérieur, alors qu'à l'exportation, on pourrait vraiment leur permettre de produire plus. On a la crevette qui continue à bien marcher, mais on a également commencé à travailler avec Rungis pour voir comment on pouvait mettre sur le marché des viandes de bœuf d'excellence. Il faut qu'on continue, on a d'autres productions, on a le café, on a la vanille, on a d'autres productions qu'on pourrait exporter. Et pour ça, il faut qu'on soit présent et il faut qu'on puisse avoir les autorisations nécessaires de la part de l'Europe et du ministère de l'Agriculture au niveau national pour qu'on puisse rentrer sur les marchés français et européens.
Lionel Brino, au micro de notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Le Salon de l'agriculture se poursuit jusqu'au 2 mars prochain.
Allez, quelques mots de sport. L'Open international de squash des 40 ans de la salle Picot a débuté hier. Une compétition qui réunit 70 participants, dont 4 invités nationaux et internationaux. Sans réelle surprise, tous se sont qualifiés pour le tour suivant. Les matchs ont repris il y a quelques minutes à 18h. La compétition se déroule jusqu'à samedi à Sainte-Marie. Et puis en apnée, le challenge d'été 2025 débute ce soir à la piscine du Wentoro. Durant 4 jours, une dizaine de compétiteurs vont donner le meilleur d'eux-mêmes dans 5 épreuves. Ils s'affronteront en sprint, 8 fois 50 mètres et 100 mètres, en statique, en dynamique, avec ou sans palme. Un challenge qualificatif pour les championnats de France, comme l'explique Fanfi, membre du club Apnea qui organise l'événement.
Donc les deux compétitions qu'on organise cette année, là le challenge d'été et puis le championnat régional qui sera fin avril, sont qualificatifs pour les championnats de France. C'est-à-dire que si les compétiteurs réalisent une certaine performance qui leur permet d'être qualifiés pour la France, hein, tout ça est très normé, ils pourraient, si la France les appelle, faire partie des championnats de France. L'enjeu pour les compétiteurs, c'est de mesurer en fait les progrès qu'ils ont faits depuis l'année dernière. Ils se mesurent principalement à eux-mêmes, puisque l'apnée, c'est pas vraiment comme la plupart des sports un challenge contre les autres. C'est plutôt contre soi-même, énormément tourné vers l'introspection. Il peut y avoir des petits défis, mais toujours dans ses limites.
Et le coup d'envoi de la première épreuve est donné ce soir à 19h30 à la piscine Jacques Mouren du Wentoro. Rendez-vous ensuite demain soir, puis vendredi et samedi. Quant au championnat régional d'apnée de Nouvelle-Calédonie, il se tiendra les 25 et 26 avril prochains. On termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Nicolas.
Alors, cette nuit, des nuages et quelques averses remonteront sur la pointe sud et les Loyautés. Ailleurs, de belles éclaircies alterneront avec quelques passages nuageux. L'alizé de sud-est soufflera autour de 25 nœuds avec des rafales à 35 nœuds aux Loyautés. Ailleurs, il restera compris entre 20 et 25 nœuds avec des rafales de 30 à 35 nœuds, sauf sur l'extrême nord-ouest où il faiblira autour de 15 nœuds. Les températures minimales seront stables avec 21 à 24 degrés, voire 25 à 26 degrés sur l'extrême nord, l'est et les Loyautés. Demain matin, sur l'extrême nord, le temps deviendra très nuageux avec des averses isolées. Ailleurs, nuages et éclaircies alterneront avec une possible ondée sur la pointe sud et aux Loyautés. Sur la pointe nord, le vent de sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds. Ailleurs, il sera compris entre 20 et 25 nœuds avec des rafales à 30 nœuds, voire plus de 25 nœuds aux Loyautés avec des rafales jusqu'à 35 nœuds, Lionel.